Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur le 895 de Dieu si vous nous rejoignez. Troisième jeudi de chaque mois, c'est le rendez-vous. Histoire, mémoire, ouvrière sur Dio, un partenariat mis en place depuis de longues saisons maintenant, avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui réalise donc et produit cette émission mensuelle sur notre antenne. C'est repris pour cette saison, bien sûr, 2017-2018. Nouvelle émission en ce jeudi 16 novembre 2017, jour de mobilisation contre la loi travail. Tiens, ça tombe presque bien, nous allons parler de travail, mais surtout de grève aujourd'hui, avec eh bien, nos deux intervenants invités aujourd'hui, Jean-Michel Steiner et Maurice Bédouin. Bonjour.
Bonjour.
On va revenir sur une question que vous connaissez très bien. De nombreuses émissions ont déjà été consacrées à cette grève de 48, cette grève des mineurs. Vous aviez déjà co-réalisé ensemble un ouvrage intitulé 1948, les mineurs stéphanois en grève, les photographies de Léon Leponce à l'histoire. Et aujourd'hui, pour cette émission, cet ouvrage date de 2011, si je ne me trompe. Aujourd'hui, nous revenons sur un ouvrage qui est consacré à cette même période, qui est cette fois signé par vos soins, Maurice Bédouin, 1948, la grève des mineurs du bassin de la Loire, l'histoire en partage, qui vient de paraître. Cela va être donc tout le menu contenu de ce programme aujourd'hui. Je renvoie bien sûr nos auditeurs auditrices au site dédié du GREMOS. C'est www.gremos.l'autre.net pour avoir toutes les informations en détail. Messieurs, je vous laisse la parole.
Eh bien, merci Lionel pour cette entrée en matière dynamique. On va essayer de poursuivre sur le même élan. Donc, Maurice, bonjour. Bonjour à bonjour. Tous nos auditeurs. Comme l'a dit Lionel, tu viens de publier au printemps un livre intitulé 1948, la grève des mineurs du bassin de la Loire, l'histoire en partage. Alors je voudrais d'abord, on va parler de ce livre bien sûr, je voudrais d'abord quelques mots sur Maurice Bédouin, qu'on entend plusieurs régulièrement sur ces ondes. Tu n'es pas originaire de Londres, mais tu ne vis pas très loin de Londres. Alors je voudrais dire aux auditeurs que tu es géographe de formation, ça a une certaine importance pour cet ouvrage, que tu as enseigné l'histoire et la géographie, comme moi-même d'ailleurs dans le secondaire, et tu as passé la bonne partie de ta carrière au collège de la Varenne, je crois qu'il porte un autre nom maintenant, à Roche-la-Molière. Je crois même que c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Que tu as été aussi longtemps formateur pédagogique et que tu as toujours conservé un esprit curieux et consacré ton temps libre, qui était précieux, parce que tu as eu quand même 4 enfants aussi, et maintenant des petits-enfants, à la recherche, avec un domaine de prédilection, les territoires du bassin minier stéphanois. Et que tu as été engagé, tu me corrigeras si je me trompe, dès l'ouverture ou dès l'origine dans la création du musée de la mine de Courriot. Et tu as rédigé des documents précieux qui sont des sortes d'itinéraires de découverte du patrimoine minier local. Alors, Maurice, pourquoi la mine ?
Alors, la mine, c'est peut-être aussi dû au hasard des nominations, puisque quand j'ai été nommé dans la région de Saint-Étienne, ce fut à Roche-la-Molière. Et curieuse surprise, quand je prends mes élèves pour la première fois, que je parle de leur famille, et je m'aperçois que beaucoup d'entre eux sont encore soit mineurs au pupigeau, soit des mineurs retraités, alors que c'était des enfants qui avaient 11 ans. Et puis le paysage de Roche-la-Molière en 1980, c'était encore un paysage parfaitement modelé par la grève, par la mine, et avec notamment le Puy Charles qui dominait le collège Gruner de sa grande stature.
Oui.
Et puis, ben, le hasard des rencontres aussi fait que j'ai été pressenti pour être professeur relais au musée Courriot.
D'accord.
Ce qui m'a obligé pendant des années à être en direction des scolaires dans la nécessité d'être parfaitement au courant de ce monde qui m'était relativement étranger, la mine, et de pouvoir les mettre en relation avec les mineurs et les mettre en relation avec des vrais projets qui soient à la fois des projets contemporains aux élèves et puis des projets qui soient liés à un patrimoine.
D'accord. Je croyais que tu avais grandi à l'ombre du Puy Courriot.
Oui, en plus, je suis un enfant de la rue du coin.
Ouais, c'est ça.
Et alors, l'un des souvenirs un petit peu drôle, c'est lorsque l'été, nous ouvrions les fenêtres, nous entendions les rochers du crassier de Courriot se fracasser. D'accord. Depuis le haut du crassier jusqu'en bas.
Ouais. Bon, alors, revenons-en au livre. La structure du livre, hein, donc ce livre intitulé « La grève des mineurs du bassin de la Loire ». Donc, en gros, il y a deux grandes parties, hein, des monographies communales, ce que tu as appelé les échelons de la grève. Donc là, on voit ici le vocabulaire du géographe. Donc 9 hors Saint-Chamond, c'est essentiellement l'ouest stéphanois, ce qu'on appelle l'ouest stéphanois, à part la Talaudière. Et puis, deuxième partie, une série de plongées thématiques dans ce que tu appelles la grève des autres. Globalement, le mouvement tel qu'il a été vécu par les non-mineurs, qui nous permettent de voir des grévistes, parfois avec les yeux de Chimène, hein, il y a bien une histoire croisée des femmes sur laquelle on va revenir, parfois avec des regards plus critiques, celui des ingénieurs et des gouverneurs, parfois dans des conditions d'hostilité, ce que tu appelles l'envers de la grève, tel que l'ont vu les forces de l'ordre. Alors avant d'entrer dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer ce sous-titre, l'histoire en partage? Je crois qu'il a une certaine importance dans ta démarche.
Une grande importance. Parce qu'à mon compte, être un historien dans les archives et un historien dans son bureau, c'est nécessaire, c'est absolument indispensable. Mais il se trouve que nous sommes sur un territoire où il y a un grand nombre d'associations du patrimoine, peut-être plus de 25, qui sont toutes actives, qui ont accumulé des richesses archivistiques de grand intérêt et qui ne demandent qu'à travailler en collaboration avec d'autres. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai toujours rencontré un très très bon accueil. Histoire en partage aussi parce que chacun d'entre nous, chacun des Stéphanois, est détenteur de souvenirs, d'un vécu familial, d'un vécu personnel, professionnel. Et cette richesse-là, eh bien, il faut la recueillir. Souvent, les personnes en question ne sont absolument pas conscientes qu'elles détiennent les clés de notre histoire, les clés de notre présent. Et c'est pour ça, avec toi, nous avons conduit un certain nombre d'entretiens absolument impressionnants, puisque au total, je crois que je me suis retrouvé devant 160 entretiens, plus de 160 entretiens, pour la plupart qui ont été enregistrés.
Oui, je dois dire quand même que tu as été la cheville ouvrière de ces entretiens et que c'est d'une part la raison d'être de Grémaus. C'est là-dessus que nous avons démarré en 2007-2008. Et c'est d'autre part d'autant plus important qu'on sait que la mémoire ouvrière laisse assez peu de traces dans les archives officielles. Donc ce travail de mémoire orale, tu l'as mené avec une constance tout à fait remarquable. Et tu as aussi, avant d'aller plus loin, je crois, on peut dire pour les lecteurs, qui, pour les inciter à feuilleter et à parcourir et à lire ton livre, tu as aussi recueilli des documents tout à fait remarquables. Je pense en particulier à des photographies. Alors là, j'ai sous les yeux, page 132, une photographie de l'exploitation d'Achazote vers 1950, une perspective cavalière qui est tout à fait remarquable et qui permettra, je pense, aux gens de Saint-Étienne qui vivent dans un monde qui a totalement été changé. Hein, on se souvient quand on a fait le livre sur le Ponce, par exemple, les transformations du secteur du boulevard Jules Janin ou bien du secteur de la Rue Camari. Là, ça leur permet de voir un petit peu effectivement la trame du paysage dans lequel ils vivent. Alors, les échelons de la grève, c'est donc la première partie de ce livre. Chaque partie, comme je viens de le dire, est ouverte par une photographie aérienne ou une perspective aérienne. On a le cas aussi pour Saint-Chamond, page 72, si je la retrouve. Voilà, une belle perspective cavalière. Donc, pas forcément toujours des photographies aériennes. Photographies sur lesquelles tu as replacé des éléments de localisation et identification, des usines, des bâtiments officiels, gares, mairies, cimetières, les directions aussi. Donc ça permet au lecteur de bien se repérer et puis avec quelques éléments qui subsistent aujourd'hui, d'arriver à retrouver un petit peu ce qui reste. Alors pourquoi, en dehors de ce que je viens de dire finalement, as-tu fait le choix de descendre à une telle échelle qui n'est pas courante quand même, alors, l'échelle communale?
Deux réponses. La première réponse, c'est que nous avons un outil photographique qui est à la disposition de tout le monde et qui est gratuit. C'est le site Géoportail, qui permet à chacun d'entre nous d'avoir accès à des années différentes, et c'est à nous de les choisir, les photos aériennes d'un site. Mmh. Et ces photos aériennes méritent d'être connues et elles méritent d'être interprétées, parce que ce n'est pas toujours vraiment facile de les interpréter. La deuxième réponse, c'est que, et ça c'est un peu le géographe qui parle, la compréhension des événements ne peut avoir lieu qu'avec la capacité de les situer et de les localiser, les uns par rapport aux autres. Et la carte existe, bien sûr, mais que c'est beau une photo aérienne. Et que c'est surprenant, parce que quand on prend une photo aérienne de 48 ou de 1950, tout d'un coup on se dit, on en a des frissons, mais on se dit, attends, en 70 ans, le paysage a tellement changé. Et il y avait la campagne tout autour. Il y avait des... et maintenant, ce sont des grands programmes immobiliers qui existent. Bon, ben, c'est nécessaire tout d'un coup d'en prendre conscience.
Ah oui, on voit bien ça pour Villars. Ça m'a frappé. Villars, c'est vraiment, c'est presque un hameau en 1948.
Et Saint-Genès aussi.
Saint-Genès aussi, oui, tout à fait. Alors, est-ce que ça t'a permis... je voudrais quand même rappeler aux auditeurs qu'il s'agit d'une grève nationale. 1948, c'est une grève nationale qui répond à des mots d'ordre nationaux. Et sans revenir sur les circonstances de la grève qu'on a évoquées dans le livre précédent de 2011, j'aimerais savoir dans quelle mesure descendre à une échelle aussi fine a permis aux chercheurs d'aboutir à des conclusions neuves ou à compléter ou à approfondir des choses que nous avions peut-être entrevues en 2011.
Alors, je crois que c'est un choix de structure narrative. Effectivement... l'historien peut descendre à des échelles du type de la commune. C'est ce qu'on appelle la micro-histoire, qui s'appuie davantage sur les individus, les groupes d'individus, les quartiers, et avec des richesses qui sont certaines. Et puis c'est un choix d'éclairage historique, parce que l'histoire, il y a l'histoire nationale, il y a l'histoire régionale, et puis il y a l'histoire plus modeste des communes, qui, à elle seule, permet d'interpréter, parfois finement, des réalités. Par exemple, quant à la Ricamari, je montre combien il y avait un antisémitisme profond et que cela a donné lieu à s'attaquer à un ingénieur des mines qui s'appelle Rémi Moïse et à sa famille et aux conséquences que ça a pu avoir. Bah, c'est un élément qui est important dans la compréhension de l'époque. Et c'est aussi important de voir comment une mairie, par la suite, a été capable d'ouvrir l'enquête, de rendre justice et de s'intéresser à Guillaume, qui était le principal instigateur de cette attaque contre la famille Maurice, et de s'en prendre à ceux aussi également, à ceux qui ont pillé la maison des Moïse et qui ensuite, par exemple, s'habillait avec le manteau en fourrure de Madame Moïse.
Ouais. Et cette échelle locale, elle renforce, je pense aussi, le recours que tu as aux témoins. Permet de voir presque à l'échelle même de la rue ce qui se passe entre telle et telle famille. On y reviendra sans doute sur les circonstances proprement dites de certains événements. Quelques mots sur les notices des maires, parce que chaque partie, sous-partie, comme on dirait dans le langage des lycéens, de cette première partie consacrée chacune à une commune s'achève par des portraits du maire de l'époque. Alors, même si tous ces échelons représentent un secteur minier du bassin, il y a tout de même de grosses différences. Justement, c'était l'intérêt de ton travail entre un Antoine Pinet, maire de Saint-Chamond, et un Marcel Combes, maire de Firminy. Alors, est-ce qu'on peut faire une typologie de ces maires ?
On peut faire une typologie, effectivement. Alors, elle est politique. Hein, c'est celle qui me vient à l'esprit en t'écoutant. C'est les tendances politiques d'un Marcel Combes, par exemple, Firminy, et de la Ricamari. Incontestablement, Germain Civet. Et on se trouve devant des populations qui sont des populations éminemment ouvrières et qui, par tradition, sont... des populations qui votent communistes. Incontestablement, il y a par ailleurs des surprises avec, tu parlais de Saint-Chamond, une commune qui est éminemment ouvrière également, avec la métallurgie, avec un peu la mine, mais aussi le textile, et des votes qui sont de type MRP, et qui porte au pouvoir municipal Antoine Pinet, alors que les résultats des de SFIO et communistes ont des résultats assez misérables. Ce sont des comportements électoraux qu'on connaît bien. Ce n'est pas parce qu'on est dans le monde ouvrier qu'on vote nécessairement pour la gauche.
Oui, et il faut rappeler pour les auditeurs qu'on est en 1948, que les élections municipales ont eu lieu juste un an auparavant, 1947, et qu'elles ont mis fin à la phase transitoire qui a été initiée à la Libération, où beaucoup de ces conseils municipaux avaient été nommés par le comité départemental de la Libération et comportaient, même dans certaines communes comme Saint-Chamond, où on a M. Ferraz qui est maire, hein, des communistes. Mais donc on a une espèce de balayage en 1947 qui contribue sans doute à exacerber le climat, même si la grève de 48 n'est pas une grève politique, contrairement à ce qu'on peut lire dans certains ouvrages, mais qui contribue à exacerber certaines réactions en disant que c'est depuis que les mairies ont changé que la situation ouvrière s'est dégradée. Alors, Marcel Combes, Firmini, personnage intéressant quand même.
Personnage très intéressant. Quand j'ai fait ces pages sur les maires, il s'est posé pour moi la question déontologique pratiquement, mais qu'est-ce que je peux apporter de nouveau ? Puisque toi-même et surtout les notices du Métron abordent tous ces personnages-là. Alors, en ce qui concerne Marcel Combes, j'ai eu la chance de tomber sur 4h30 d'enregistrement de Jacqueline Dupuis, qui était à l'époque ethnographe à la Maison de la Culture de Firmini, et qui avait interrogé Marcel Combes. Et je suis tombé là, effectivement, sur des renseignements qu'on n'avait pas exploités jusqu'à présent et qui me paraissent extrêmement novateurs et intéressants pour mieux voir ce qu'était le personnage.
Et qui sont conservés au musée des Bruneaux.
Je pense que l'enregistrement est au musée des Bruneaux. La copie écrite est au musée d'art et d'industrie.
D'accord. On dit ça pour les auditeurs pour voir sur quel type de matériaux on travaille.
De dégoût, de misère, par milliers unis dans les grands puits. Les mineurs ont clamé leur colère pour la grève, alors ils ont dit oui. Leur droit était bien légitime, inscrit dans la Constitution. Les travailleurs des champs d'épines ont dit mineurs, oui, vous avez raison. Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau. Bravant la répression sanglante, bravant les prisons, les bourreaux. Dans le Gard, dans la Loire, en Moselle, tous unis, magnifiques de gloire, du Nord jusqu'au Midi. Salut à vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tous les cœurs. Gloire à vos morts, sublime exemple, salut à vous, vaillants mineurs.
Mais un jour, des troupes mercenaires ont fait une ignoble répression. Assassins, ils ont tué vos frères en jetant des centaines en prison. Oh vous, parjures couverts de honte, aux mains rougies du sang français, vous traînerez jusqu'à la tombe l'ignominie de vos tristes forfaits.
Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau. Bravant la répression sanglante, bravant les prisons, les bourreaux. Dans le Gard, dans la Loire, en Moselle, tous unis, magnifiques de gloire, du Nord jusqu'au Midi. Salut à vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tous les cœurs. Gloire à vos morts, sublime exemple, salut à vous, vaillants.
Devant la résistance, ils déclarent la guerre au berceau. Les enfants, aux suprêmes espérances, furent victimes des ignobles bourreaux. Jamais nous n'oublierons ce crime, le plus ignoble des méfaits. Tremblez,
tyran, c'est la limite, car maintenant le peuple entier vous veut. Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau, bravant la répression sanglante, bravant les prisons, les bourreaux. Dans le Gard, dans la Loire, en Moselle, tous unis, magnifique de gloire, du nord jusqu'au midi. Salut à vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tous les cœurs. Gloire aux morts, sublime exemple, salut à vous, vaillants mineurs. Va mineur, marche en pleine lumière, sur la route de ta belle histoire. Jalonné par tant de luttes acerbes, fais flotter bien haut ton étendard. À ton exemple de courage, bravant tous les moques et leurs chiens, unis pour la lutte finale, le peuple en marche triomphera demain. Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau, bravant la répression sanglante, bravant les prisons, les bourreaux. Dans les gardes, dans la Loire, en Moselle, tous unis, magnifique de gloire, du nord jusqu'au midi. Salut à vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tous les cœurs.
Nous venons d'entendre Mineurs de France, chanson créée par Gabriel Maritain. Peut-être quelques mots sur Gabriel Maritain. En 1948, il avait 29 ans. Il fait partie de ces jeunes qui sont dans la grève et qui sont d'un dynamisme extraordinaire. Il était délégué mineur aux mines de la Bérodière, bien connu d'Éric Amandois. Toute la famille vivait de la musique. Je crois que assez souvent Gabriel allait jouer de l'accordéon dans les cafés de la Ricamari et chantait. Alors il a créé cette chanson alors qu'il était en prison. Alors effectivement, Gabriel Maritain a été jugé et a écopé 8 mois de prison et 90 000 francs de dommages et intérêts à verser. Et peut-être est-il intéressant de rappeler qu'à la fin de l'interrogatoire, Gabriel Maritain a pris la parole. Il s'est adressé au juge et voilà ce qu'il dit. « Quoi qu'il en soit, je sortirai la tête haute car j'ai conscience d'avoir rempli mon devoir vis-à-vis des ouvriers. » Et les 200 personnes qui étaient dans la salle ont applaudi et le président n'a eu qu'un recours, c'est de faire évacuer la salle. Alors, dans le livre des photos de Le Ponce, nous voyons Maritain à sa sortie de prison, accueilli par les femmes de l'Union française, l'Union des femmes françaises. Et
on le voit aussi en négociation avec le commissaire Beretti au début de la grève. Une très belle photo aussi au puits de la Bérodière.
C'est vrai. Et c'est pendant ces mois à la prison de Bellevue que Gabriel Maritain a créé cette chanson. Qui est devenue une chanson culte, on peut presque dire.
Qui est chantée dans tous les bassins et dans tous les congrès du syndicat des mineurs. Maritain, c'est une icône, c'est vraiment une personnalité remarquable et qui a été adorée par les Ricamandois, ça je crois qu'on peut le dire. Alors c'est intéressant d'aborder la suite par cette chanson. Mon lapsus était révélateur, parce qu'on n'a pas tellement l'habitude finalement. De se pencher sur des chansons. En même temps, ça nous montre déjà que, effectivement, dans le monde des mineurs, la musique joue un rôle important. Ça nous montre aussi qu'il est question beaucoup de la famille, des enfants, des femmes dans cette chanson. Il est question aussi, on y reviendra, des morts. Mais ça nous amène donc à cette histoire croisée des femmes et de la grève. Les enfants furent victimes des bourreaux, dit Maritain dans cette chanson, et les femmes, quel rôle jouent-elles? Tu as consacré un chapitre entier de ta deuxième partie sur cette place des femmes.
Alors pour démarrer sur ces femmes, je pense qu'il fallait savoir précisément comment, après la guerre, on se représentait la femme et le rôle de la femme. Alors, difficile entreprise, parce que si l'on s'en tient uniquement au témoignage, on a des bribes d'informations qui ne sont pas très cohérentes. Et j'ai eu la chance de m'apercevoir qu'à la Cinémathèque de Saint-Étienne, il y avait deux films tout à fait remarquables que l'on projette pour des raisons illustratives, mais que moi j'ai trouvé remarquables parce qu'on y voyait en contrepoint la place de la femme. Pardon. Le premier film dont je voudrais parler, c'est Étage 776, qui est une fiction qui montre la vie d'une famille de mineurs et qui montre une famille, un mari et son fils, qui partent, et le mari a un accident. Et la femme, à la fin, revient compatissante, fermer les yeux à son mari. Le deuxième film, c'est Houillères de la Loire, 1949, qui est un document qui était destiné à présenter la mine nouvelle au moment de la première foire économique de Saint-Étienne en 1949. Et c'est une version complaisante de la réalité où on montre une famille dans la cité de Beaulieu à Roche-la-Molière. On voit la famille heureuse avec son jardin, une femme avec un enfant dans les bras qui, au moment où son mari revient du poste, lui le remet d'une façon assez grandiose, comme on peut le voir presque dans les grands tableaux.
Il est bien propre quand il revient.
Oui, il est bien propre. Voilà. Alors, dans ces deux films, qu'est-ce qu'on voit ? Mais on voit le prototype de la femme soumise. Le mineur, lui, est un homme musclé qui participe aux associations et qu'on représente en photo avec le marteau-piqueur. Mais la femme, elle est présentée dans son cadre familial. Elle est celle qui prépare le repas, qui prépare le gandeau. Elle est celle qui a des yeux, mais complètement plein d'amour pour son mari. Et puis c'est tout. Et dans le cadre social, on la voit fort peu, si ce n'est dans les dispensaires qui sont ceux des dispensaires de la mine.
Oui, et comme tu dis très justement, j'avoue que je n'avais pas fait le calcul sur les 123 clichés de Le Pons qu'on a étudié. 90 ne représentent que des hommes et un seul représente que des femmes. Les autres, on voit les femmes en train de faire la cuisine, en train dans des actions de solidarité ou dans des cortèges. Mais donc les femmes sont tenues à l'écart. Or, elles ont joué un rôle essentiel, et notamment grâce à des organisations que tu as étudiées un peu en détail et qui quand même renouvellent, ou non pas renouvellent, mais reconduisent la séparation politique entre les deux grands courants qui dominent le monde ouvrier de l'époque, c'est le courant catholique social et le courant communiste.
Oui, tout à fait. Alors, il est très vite apparu que les femmes, elles avaient envie peut-être d'autre chose que de rester à la maison et de coudre. Et effectivement, à la fois dans le camp catholique et à la fois dans le camp communiste, si on peut schématiser les choses, on a compris que la femme pouvait être un relais d'influence. Relais d'influence dans son quartier, mais relais d'influence auprès de son mari. Alors, certainement que l'Église a pensé que cette femme qui était pratiquante souvent pouvait appartenir à des associations qui avaient été fondées longtemps à l'avance déjà. Cette association s'appelle la Ligue féminine d'action catholique. Et c'est pas banal que quand on voit les initiales, ça fait LFAC. LFAC. Avec d'autres relais d'action catholique qui sont en particulier ici, l'action catholique des milieux indépendants. Ces groupes étaient très liés à la motivation des curés. Donc ça veut dire qu'il y avait des quartiers où il y avait effectivement l'Église présente parmi les femmes de mineurs, toujours en essayant de travailler sur l'aide aux familles et sur la lutte contre l'alcoolisme. Et d'ailleurs, dans les communautés protestantes, on s'aperçoit que c'était aussi la même préoccupation. La fraternité des communautés protestantes passe par cette aide aux familles et à ce travail sur l'alcoolisme. Et puis, syndicalement, les femmes sont aussi des relais d'influence. Alors, la CGT a essayé d'interpeller les femmes par des tracts. Surtout quand, fin mi-novembre, on s'est aperçu que la grève s'effilochait. Alors, la CGT, par ses tracts, essayait de dire aux femmes « Motivez vos maris, essayez de leur faire comprendre que la victoire est au bout. »
C'est intéressant quand même. C'est intéressant de voir qu'on prend les femmes comme levier pour lutter, enfin pour pousser les hommes à continuer la grève.
Quand on voit que la partie est en train de mal tourner, c'est assez incroyable. Et sur le plan syndical, il y a des choses intéressantes qui se sont passées. Parce que nous avions fréquemment à la Bourse du Travail les bureaux nationaux, les membres des bureaux nationaux qui venaient. Et pour les femmes, il y avait une femme qui s'appelait Olga Tournade, qui venait à la Bourse du Travail et qui réunissait les femmes sympathisantes de la CGT. Alors, elle leur expliquait quel est le rôle qu'elles pouvaient avoir. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat ? La création à la Bourse du Travail de groupes de rassemblements où on apprenait aux femmes à repasser, où on apprenait aux femmes à coudre. Et plus symptomatique encore, quand on a interrogé Olga Tournade sur pourquoi n'y a-t-il pas des femmes qui ont des responsabilités à l'intérieur de l'organisme CGT syndical, elle répond « Non, mais attendez, le syndicat, c'est trop important. » Voilà ce qu'elle dit. « L'action syndicale des femmes et des jeunes doit être dirigée par des hommes. » Alors là, ça scie.
Et, oui. Hein? Et pourtant, il y a quand même une personnalité... Plusieurs personnalités très importantes. Alors, je pense à Denise Bastide, bien sûr, la grande oubliée des soi-disant expositions sur les femmes glorieuses de la Loire, qui est quand même la seule femme députée, la première femme députée de la Loire, seule femme députée à l'époque et pendant très longtemps. Et puis, je pense aussi
Marie Bory.
Ouais, et je pense à Marie Bory, mais je pensais surtout à celle dont nous avons interrogé la petite fille qui était à Ricca Marie, qui a...
Madame Flattet.
Voilà, Madame Flattet, qui joue quand même un rôle très important. Alors, toutes les deux dans les comités d'aide aux enfants et dans les comités d'aide aux prisonniers.
Oui.
Et donc, je crois que, bien sûr, il y a une vision très genrée, hein, la lutte syndicale, la lutte dans les puits. Alors, ça s'explique aussi par le fait que les mineurs de fonds sont tous des hommes. Je pense qu'on peut en partie dédouanée, mais c'est vrai que tu as raison, il y a une vision très très genrée, y compris dans la tête des femmes elles-mêmes.
Ça s'explique aussi par le fait que quand il y a des élections, on ne souhaite pas, un homme ne souhaite pas laisser sa place à une femme, parce que c'est à ses yeux l'homme qui est capable de mener les combats politiques. Et puis il y a un autre point de vue aussi, c'est qu'il ne faut peut-être pas donner l'image d'un parti de femmes.
Oui. Oui.
Enfin, le PC a fait le pas, alors que le MRP, la SFIO, ne l'ont pas fait.
Non, ils avaient tous des femmes dans leur liste, mais seul le PC en avait une en position éligible.
Et puis un petit mot peut-être sur l'Union des femmes françaises.
Voilà, sur l'Union des femmes françaises.
Alors, c'est très intéressant parce que grâce aux archives, on peut voir la naissance de l'Union des femmes françaises à Saint-Étienne dans ces années d'après-guerre, en 1947. Avec des personnalités qui ne se réclament pas forcément du Parti communiste, mais souvent des femmes qui se disent du milieu associatif. Et ces regroupements d'Union des femmes françaises, on les voit se réaliser au plus proche, dans les quartiers, avec dans le journal les informations à telle date, à telle heure, la réunion qui peut avoir lieu.
Oui, voilà. Avec aussi c'est quand même... Une des racines de la grève, toutes les luttes qui sont menées contre la hausse des prix dans les marchés, avec des mesures d'action directe, on pourrait dire, d'intervention pour faire baisser les prix auprès des marchands.
Sur les marchés, au niveau de la solidarité, toujours sur les marchés, dans la vente des bons de soutien de 100 francs. Et puis, elles vont aussi chez le préfet pour déposer une motion contre la vie chère, où là, elles se font recevoir avec des sourires un peu condescendants. Et puis, des actions aussi au palais de justice, puisqu'il y a eu un moment où il y a eu le huis clos des sessions du palais de justice, et ces femmes sont venues manifester très fortement et se sont fait ouvrir... le prétoire.
La salle. Ouais. Alors, on va parler ensuite d'un deuxième sujet que tu as abordé, celui des immigrés, mais on a quand même un petit moment pour dire quelques mots sur les ingénieurs. Je voudrais juste poser une question, parce que tu as quand même rencontré des anciens ingénieurs. Le musée de la mine est quand même en grande partie conçu par des anciens ingénieurs. Bon, je ne veux pas revenir sur le fait que les luttes sociales sont absentes de la scénographie de cette... absente en tout cas jusqu'à une date récente. Alors, est-ce qu'on assiste quand même, lors de ce conflit, à un changement de statut des ingénieurs ? Il me semble, quand on te lit, c'est un peu ce qui ressort. Dans le processus de production minière, ils avaient quand même un statut très élevé. Et est-ce qu'on n'assiste pas à quelque chose à... Soit c'est en 48, soit c'est déjà dès 1944, avec le processus qui va déboucher sur la nationalisation, à un changement de statut de l'ingénieur, oui. Qui est un peu enlevé de son socle, je dirais.
Honnêtement, j'ai beaucoup appris. Parce que c'est une prise de conscience que ces ingénieurs de la période de la libération, à une époque où il y avait des ministres communistes au gouvernement, qui se sont dit « Ok, on marche pour la bataille du charbon, on va faire tous les efforts pour mobiliser les énergies. » Mais, cela on le sait, mais par ailleurs, souvent des ingénieurs qui adhèrent à la CGT et parfois, peut-être, se rapprochent du Parti communiste.
Oui, et en même temps, la grève va entraîner peut-être un retour du balancier.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que il se crée un syndicat CGT des gouverneurs et des ingénieurs. Et en même temps que la disparition des ministres communistes du gouvernement, en même temps, on voit ce syndicat s'effilocher. Rends-toi compte, Jean-Michel, nous avons eu jusqu'à 800 membres dans ce syndicat dans le bassin de la Loire. Et en 1948, on était proche du niveau zéro.
Oui, donc voilà un indicateur intéressant aussi sur ce que cette grève a entraîné comme bouleversement par rapport à une situation donnée qui était celle de la libération. On va faire une petite pause et ensuite on y reviendra.
Dans la tiédeur ou le froid des matins, été, hiver, sur les mêmes chemins, nous retournons toujours d'un même pas vers le trou noir qui nous attend là-bas. Et par dizaines, par centaines, par milliers, que les grands puits ont au fait d'absorber, nous arrachons des galeries sans fin le noir charbon pour gagner notre pain. En avant, gueules noires, hissons notre drapeau, rougi du sang, couvert de gloire, de nos martyrs, de nos héros. En avant, gueule noire, fort de notre unité, nous marchons vers la victoire et la liberté. Où s'en vont-ils, ces petits gars, ces enfants, à peine âgés de 14 à 15 ans, qui ne connaissent de la vie que misère, et qui travaillent déjà comme leur père? Où s'en vont-ils, ces petits enraillons que le destin a mis dans les corons? C'est la relève de leurs frères, leurs aînés, qu'un dur labeur a bien vite épuisé. En avant, gueule noire, hissons notre drapeau, rougi du sang, couvert de gloire, de nos martyrs, de nos héros. En avant, gueule noire, fort de notre unité, nous marchons vers la victoire et la liberté.
Il n'y a jamais d'autres horizons que les crassiers dominant les maisons. Dans la fumée, la poussière sous nos pas, on va troupeau de parias, de forçats. Dans cette mine, engloutie chaque jour, combien des nôtres sont tombés sans retour? Aux victimes de l'insécurité, pour le profit, on les a sacrifiés.
En avant, gueule noire, qui sont notre drapeau.
Il faut faut lutter chaque jour sans répit pour le respect de nos droits, de nos vies. Mais tout ça ne va pas sans répression. La tranchée rouge en fut bien la leçon. En ce temps-là, courbé sous le fardeau, Michel Rondet a levé le flambeau. Il brille encore pour nous dans les combats. Il nous éclaire et nous guide à la fois.
La victoire et la liberté.
Ouais, cette chanson en avant-Gueulemard qui nous rappelle, avec la tranchée rouge, que la répression ne date pas de 1948 dans le bassin de la Loire, et que aussi le bassin de la Loire a été le cœur et le centre, le pôle initial de la création du syndicat des mineurs français. Alors dans cette partie consacrée donc, à la grève des autres, tu parles des immigrés. Je me suis posé une question, ce sont bien des mineurs, alors pourquoi les avoir rangés dans cette partie intitulée « La grève des autres » ?
Parce que être immigré, c'est avoir un visage qui n'est pas tout à fait le visage d'un bon Français. C'est être venu parfois d'une façon un petit peu illégale. Et c'est aussi ne pas savoir écrire, ne pas savoir parler et être victime de racisme. Et je crois véritablement qu'il faut prendre conscience qu'il y avait une population immigrée qui, par elle-même, n'était pas tout à fait la même que celle des mineurs français.
Bon, et donc, tu as rencontré des témoins, tu as trouvé des archives spécifiques. C'est vrai que sur les photographies de Le Pons, nous avions remarqué qu'il y avait des têtes un peu plus bronzées que d'autres. Et on savait, bien sûr, qu'il y a une immigration officielle, importante, à l'époque quand même, de mineurs marocains organisés et de mineurs algériens qui sont, il faut le rappeler quand même à l'époque, des Français.
Bien sûr. Et tu parles de témoignages, ça n'est pas facile parce que beaucoup d'entre eux sont repartis chez eux. Et ceux que j'ai eu la chance d'interroger sont des gens qui parfois avaient une santé bien diminuée, très atteints par la silicose.
Et tu as utilisé les documents et les sources que fournies par Catherine ?
Oui. Et j'ai utilisé aussi les ressources des archives minières, des archives départementales, parce qu'on a des statistiques là qui sont extrêmement précieuses.
Alors, c'est des archives qui ont été, qui sont pas vraiment classées en fait, qui sont difficiles encore d'accès.
Celles-ci sont classées, si.
Bon, alors tu évoques, alors il y a différentes sources d'immigration, bien sûr. Il y a, comme tu dis, Mohamed, Stanislas, Luigi, Pedro, donc immigration méridionale par rapport à la France, mais pas toute d'outre-Méditerranée. Il y a aussi des Espagnols et des Italiens. Donc tu nous montres aussi cette chose intéressante, c'est que pour devenir mineur, on s'intéresse d'abord à la capacité physique, parce que c'est un métier qui reste quand même un métier très physique, malgré le marteau-piqueur et les...
C'est assez douloureux de s'apercevoir qu'il y avait des recruteurs. Parfois des ingénieurs, hein. Quand je dis recruteurs, c'est pas du tout péjoratif, accompagnés d'un médecin qui passait dans les campagnes et qui se faisait renseigner sur l'âge des personnes et leur état de santé. Et on ne s'adressait qu'à elles seules. Et ensuite, effectivement, il y avait visite médicale sur place pour savoir s'ils n'étaient pas porteurs de tuberculose et s'ils avaient de la poigne. Parce que tenir un marteau-piqueur, c'est peut-être pas à la portée de n'importe qui. Et il y avait un instrument. Alors, grande chance, cet instrument se trouve aujourd'hui au musée de la Talaudière, là, le musée de la mesure et de la mémoire. C'est un dynamomètre
musée
manuel.
Animé par Karine Petel.
Bien sûr. C'est un dynamomètre manuel qui est tout simplement un tout petit instrument que l'on doit prendre dans sa main et appuyer au maximum. Et il y a un curseur qui permet de voir si vraiment la personne a de la poigne.
Je crois que je n'aimerais pas de bons résultats, moi.
Pourquoi embaucher des personnes en bonne santé ? Eh bien parce que, une fois arrivé en France, il ne faut pas que ce soit des mineurs qui tombent malades, puisqu'il y a un système, en principe, de protection sociale.
Bon, et... qu'est-ce que ça donne par rapport au syndicalisme ? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques ? Est-ce qu'il y a des, comme un petit peu, on pourrait dire avant la guerre, une action dirigée vers telle ou telle nationalité ? Ou bien est-ce que ça a disparu complètement après la guerre ?
Alors, parlons d'abord globalement. Globalement, il y a un faible degré de syndicalisation, tout simplement parce que ce sont des gens qui n'ont pas qui n'ont peut-être pas envie de rester sur place d'abord, qui n'ont pas compris quel est le rôle du syndicat et qui ont peur, et c'est le cas pendant la période de 1948, d'être expulsés en cas d'arrestation.
Et qui sont d'ailleurs massivement expulsés.
Et qui sont massivement expulsés. Et qui, en retour, espèrent profiter de l'entraide de leurs camarades. Parce que comment ça se passe ? On vit dans un campement avec les autres de sa même nationalité et on mange dans la même casserole. Et quand on habite Tarentaise, et ben on se rend au café pour rencontrer la personne qui sait lire le bulletin de paye, qui sait vous conseiller sur les problèmes qu'on peut avoir au niveau du boulot.
Bien. Je voudrais en venir sur un dernier point, puisqu'il nous reste quand même pas trop de temps, sur la mémoire de la grève. Comme nous l'avions signalé dans l'ouvrage consacré aux photographies de Le Ponce, la mémoire de cette grève a longtemps été une mémoire meurtrie et occultée. Une bonne partie de ton ouvrage repose sur des témoignages que tu as recueillis après la parution, 2010, 2011, enfin bon, 2010, on avait pratiquement terminé. Il semble donc qu'il y aurait eu comme un effet boomerang qui, après la publication. Et j'aurais donc deux questions à te poser. D'abord, est-ce que tu as ressenti dans tes témoignages, puisque la plupart tu les as faits seuls, que la parole s'est libérée grâce à ce livre depuis 2011, grâce au livre sur Le Ponce, qui a eu, il faut le dire, un grand succès quand même.
Alors, la parole a été libérée incontestablement avant la parution du livre sur Le Ponce. Tu te souviens quand nous allions dans les amicales laïques et dans les médiathèques avec les photos de Le Ponce pour faire identifier les visages des personnes. Et là, tout d'un coup, on s'était aperçu que, d'abord, la mémoire était très fidèle et qu'ensuite, les gens souhaitaient nous rencontrer, mais en prenant du temps. Bon, effectivement, là, ça a commencé à se développer. Et puis, quand nous avons présenté le livre de Le Ponce, un grand nombre de personnes se sont levées dans la salle en disant « Mais attendez, nous aussi, on avait des choses à vous dire. Et nous aussi, on a besoin d'en parler. » Alors, je vais tout à fait dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire que même à l'intérieur des familles, on n'avait jamais beaucoup parlé de ces événements. Et c'est parce qu'on a soulevé le couvercle de la casserole que beaucoup de personnes ont ressenti le besoin de le faire. Mais heureusement que nous l'avons fait à cette époque, parce que je peux dire qu'en 2017, serais bien incapable aujourd'hui de mener une campagne semblable.
Oui, il aurait peut-être fallu le faire dans les années 90.
Ah ben, on est toujours en retard.
Alors on a quand même constaté qu'il y a cette mémoire, elle est meurtrie aussi, parce que cette grève a provoqué des tensions internes à la classe ouvrière. Elle a peu fait voler en éclat le mythe d'une unité de la classe ouvrière. Est-ce que tu as eu des témoignages plus précis à ce propos ? Je vois que tu as un peu travaillé sur la fusillade autour d'Antonin Barbier, la mort d'Antonin Barbier, la fusillade de Campfort, et sur lequel j'aimerais qu'on termine justement, parce que j'ai plusieurs choses à te demander. Est-ce que tu as l'impression que ça reste vif ? Cette opposition qui quelquefois traversait, alors, non pas les familles, mais en tout cas un quartier. D'une maison à l'autre, il y avait ceux qui avaient été à fond dans la grève et ceux qui trouvaient qu'on allait trop loin. Est-ce que c'est encore vif au moment où tu fais tes entretiens ?
C'est encore vif et je vais prendre un exemple tout simple. Il y a un nom qui est très commun dans la vallée, c'est le nom de Bouchet. Et il se trouve qu'il y a eu des familles Bouchet qui ont pris une part extrêmement active et même qui ont payé cher leur participation à la grève. Et des épouses et des filles qui se sont exprimées sur l'histoire familiale d'une façon très très amère. Et puis, parallèlement, des familles Bouchet qui m'ont expliqué combien cette grève était une grève qui avait cassé l'avenir industriel de la vallée, l'exploitation minière, et qui était responsable d'une désaffection de la vallée qui avait commencé dans cette période de l'après-guerre.
Oui, donc ça renforce cette image non seulement d'une région rouge, mais même d'une région à éviter pour tout investissement. C'est un petit peu ce que tu sous-entends.
Beaucoup, oui.
Beaucoup.
Oui. Et il faut quand même avouer le paradoxe, c'est que dans la période qui suit, les années 49, 50, 53, il y a une débauche d'investissement qui se fait dans cette vallée de Londen autour de la houille, alors que l'on savait pratiquement déjà à ce moment-là que la houille était sans avenir.
D'accord. Alors pour la mémoire, il y a bien sûr, je pense que c'est important de terminer par là, il y a la mort de Barbier, qui a donné effectivement, je dirais malheureusement, la première place au bassin de la Loire dans cette grève. Alors tu nous fournis un document que j'ai trouvé tout à fait intéressant, page 29. Donc c'est une photo du puits Campfort avec trois photographies. Donc au centre, plus grande que les deux autres, la photographie d'Antonin Barbier. À gauche, celle de Marcel Goyot. Et à droite, celle de Jean Roubi. Alors tu l'intitules ça montage réalisé en forme de martyrologe. C'est vrai qu'on a l'impression de quelque chose de religieux avec presque une reproduction des représentations du Christ
comme Christ, au cimetière
du Christ en croix. Est-ce que cette photographie d'abord, est-ce que tu l'as datée précisément? Est-ce qu'elle est immédiatement postérieure aux événements? Est-ce qu'elle a connu une grande diffusion? Donc tu dis qu'elle est conservée au château des Bruneaux. Est-ce qu'elle a été éditée en forme de carte postale?
Non.
Est-ce que c'est quelque chose de privé?
Non. J'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir publier ne serait-ce que ce type de document. Parce que ce sont des documents qui sont tombés dans l'oubli. De même que l'autre document qui est la carte envoyée au président Auriol pour obtenir réparation.
Ça paraît dans la presse quand même.
Ouais.
Mais cette photographie là, je la trouve de même que le petit tract là avec la photographie c'est l'arrière effectivement.
Ouais.
C'est pareil dès 1948. Alors il y a la deuxième question, c'est la maison de Barbier avec une plaque. Alors une plaque que nous avions un peu commentée. Hein. Ici habitait notre camarade Antonin Barbier, victime des luttes ouvrières. On avait bien senti que c'était une formulation un petit peu étrange. Qu'est-ce que c'est que ces luttes ouvrières Alors moi, ma question, c'est pourquoi pas de plaque aujourd'hui à l'emplacement du puits?
Alors, ma réponse, c'est on m'a annoncé qu'une rue serait dédiée à Antoine Barbier et j'en attends toujours l'inauguration. Cette information, elle date de 2 ans. Et puis, on m'a promis que je serai informé. Elle n'a toujours pas été inaugurée.
Non, parce que je rappelle quand même que Firmini, après Marcel Combes, a eu pour maire Claudius Petit, maire qui était de centre-gauche ou centre, donc pas du tout communiste, mais que depuis 1971 jusqu'à pratiquement aujourd'hui, à l'exception de l'intermède de Cinieri, il a eu un maire communiste. Mmh. Alors pourquoi pas de plaque sur le puits? C'est quand même, il me semble que le bon endroit, c'est le puits.
Oui, probablement que
il
y a des éléments qui sont encore béants, des plaies qui sont encore béantes, et ça serait l'occasion à travers le bouquin d'un peu les comprendre.
Donc, vous l'avez compris, un bouquin passionnant, intéressant, foisonnant de documents qu'il faut absolument que vous lisiez. 1948, la grève des mineurs du bassin de la Loire, l'histoire en partage, par Maurice Bedouin aux éditions Actes Graphiques, donc une édition stéphanoise que nous saluons ici, puisqu'elles engagent avec nous un partenariat sur l'histoire ouvrière stéphanoise. Alors pour terminer, Maurice, on va dire quelques mots de ce qui nous attend dans les jours qui viennent. Alors je te laisse commencer, puis je prendrai la suite.
Oui, une actualité qui est assez riche. À commencer par le mercredi 22, de 18h à 20h, une conférence à la faculté, l'amphi E01, sur les ordonnances travail. Le lendemain, jeudi 23, alors là, mes amis, il va falloir vous démultiplier parce que vous n'arriverez pas à être présents partout. À 18h, inauguration de l'exposition des archives municipales de Saint-Étienne sur les affiches avec un titre très original, Affichez-vous, je crois. 18h30, inauguration de l'exposition de 40 toiles de Xavier Noir à l'initiative de l'association Révéler ma colline, et le lieu d'exposition n'est absolument pas habituel, c'est dans la petite rue qui rejoint la Bourse du Travail à la Charité, et oui.
La rue Belon.
C'est pas celle-là, c'est l'autre. Et oui. Et,
la rue des Martyrs du Travail, alors.
Et oui, la rue des Mutilés du Travail.
Du Travail.
Et à 19h, à la librairie L'une et l'autre, notre ami Michel Rothenberg qui présente son nouvel ouvrage, Saint-Étienne, ville imaginée, mineur, artiste, habitant. Voilà pour la semaine prochaine. Quant à la semaine suivante, et je vous signale, le mercredi 29 de 18h à 20h, une conférence, ma foi, dans le droit fil de ce que l'on vient de dire, sur les descendants d'immigrés, toujours à la fac, à l'amphi E01.
Et ça, c'est des conférences qui sont organisées par l'Institut du Travail et notre ami Serge Proust. Deux mots pour signaler des actions qui ont lieu sur Montbrison. D'abord, le 1er décembre... la réunion des amis de Benoît Malon qui va donner lieu notamment à une conférence d'Emmanuel Jousse sur Benoît Malon et le réformisme. Je vous conseille de retrouver ça sur les réseaux sociaux. Le 6-12, c'est un jeudi soir, Michel Balmont va présenter le cuirassé Potemkin au cinéma de Montbrison. Et le 8-12, donc ça c'est deux actions qui sont organisées par Attaque Forez dans le cadre de la commémoration de la Révolution russe, une journée consacrée à la Révolution russe, donc avec mon intervention sur 1917, une ou des révolutions, et l'intervention de Bertrand Lordon sur la portée de l'année 1917 jusqu'à nos jours. Merci beaucoup.
Puisque Jean-Michel, juste pour compléter, puisque tu abordes octobre, ce soir, il y a le retour de Plan Libre au cinéma Méliès, c'est Saint-François, c'est ce jeudi 16 novembre, c'est à partir de 18h30, deux films projetés. On rappelle le principe, c'est le ciné-club des écoles d'enseignement supérieur stéphanoise, école des mines, école d'architecture, qui propose ce rendez-vous présenté, discuté, animé par Alain Renaud, philosophe local bien réputé et reconnu. Projection des films Les Derniers Jours de Saint-Pétersbourg, de Putovkin et Octobre d'Eisenstein. C'est ce soir donc à partir de 18h30 au Méliès Saint-François. C'était simplement pour compléter et à nouveau quelques infos complémentaires si vous me le permettez, puisque vous avez évoqué l'actualité des membres du Grémos finalement aussi. Vous publiez de nombreux ouvrages et c'est chose plutôt intéressante. Eh bien Jean-Paul Bentière, qui aussi est venu il y a très peu, présentera son ouvrage L'Union départementale de la CFTC-CFDT de la Loire. Ce sera le 12 décembre prochain dans le local de l'Union locale CFDT de Saint-Chamond, Hôtel-Dieu, rue de la Charité, à Saint-Chamond, à partir de 20h. Il fallait tout de même le préciser. Ah oui. Et puis, comme notre rendez-vous est mensuel, et vous avez évoqué la mine, ce sera bien sûr au mois de décembre la mine célébrée dans toute sa splendeur, puisqu'il y a la Sainte-Barbe tout de même qui va se profiler et se présenter. Ce sera le week-end du 2 et 3 décembre à Saint-Étienne, grand week-end de la Sainte-Barbe avec de nombreuses animations gratuites. On vous renvoie sur le site du Puy Courriot, au musée de la mine de Saint-Étienne, où vous retrouvez tous les événements en détail. Simplement préciser tout de même que il y aura des visites et spectacles sur le thème des migrations. Vous évoquiez les migrations et la mine. Il y a des visites tout à fait particulières qui seront proposées le 26 novembre prochain, mineurs d'ici et d'ailleurs, avec spectacle également du théâtre de la Tarlatane, de la Farine au Charbon, prévu à 17h. Voilà, 10h-17h pour la visite guidée et le spectacle. C'est le dimanche 26 novembre prochain. Mais là aussi, vous retrouverez toutes les infos en détail sur le site du Puy Courriot, Musée de la Mine de Saint-Étienne. Merci à vous. On se retrouve donc le mois prochain. C'est le troisième jeudi de chaque mois pour le dernier rendez-vous de cette année 2017. Un avant-goût, Jean-Michel, pour le contenu thématique de la prochaine émission?
Absolument, oui. Ce sera sur une présentation de la démarche qui nous a amené au thème des cinquièmes rencontres d'histoire ouvrière, c'est-à-dire monde ouvrier et religion.
Voilà, grande ouverture, belle ouverture. Ce sera les troisièmes rencontres d'histoire ouvrière que vous organisez. Cinquième. Les prochaines, ce sont les cinquièmes déjà et ce sera en janvier
19
prochain,
janvier 2018.
Voilà, vous saurez tout en écoutant la prochaine émission mensuelle le mois prochain. Portez-vous bien. Ciao.
Merci.